Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et c'est à nouveau Jeudi Noir, la dernière émission de l'année. Là on est avec Michel, donc José avec Michel, pour vous parler de bouquins. Donc on va faire encore une spéciale plein de bouquins. Bon, on va se contenter d'une dizaine de livres pour finir l'année, avec à chaque fois donc un morceau de musique, vous connaissez le principe, qui illustre tout ça. Alors là on a commencé avec un morceau des Tugs. Les Tugs, ce groupe d'Angers qui s'appelle Numéro 6, ce morceau, et qui ressemble quand même un petit peu au générique de Jeudi Noir. Et bien oui, c'est un sample des Tugs dans Jeudi Noir. Donc on attendait que cette biographie sorte pour pouvoir mettre ce morceau des Tugs. Donc une biographie, on va commencer par ça. C'est une biographie des Tugs écrite par Patrick Foulou aux éditions du Boulon. C'est édition du Layer, collection Le Boulon ou Le Boulon Le Layer, je ne sais pas exactement comment c'est. Peu importe, en tout cas c'est un bouquin déjà qui est assez joliment édité. Le format, la qualité du papier, l'ancrage, les photos, enfin c'est super belle présentation déjà, donc un bel objet. Qu'on peut commander en ligne aux éditions du Boulon et puis sinon sur le site des Tugs. Mais je vous en parlais pour voir si ça vous donne envie de l'acquérir. En tout cas, les Tugs, alors c'est un groupe d'Angers qui a débuté vers 1983 par là et qui a duré environ 16 ans. Les derniers concerts c'était fin 99. Ils sont reformés un tout petit peu en 2008 pour fêter le 20e anniversaire d'un label américain ami. Alors je vais vous présenter un peu le bouquin plus que le groupe. Donc déjà dans ce bouquin il y a une préface de Virginie Despentes qui est très fan de punk rock français, puisqu'il s'agit de punk rock, vous avez pu entendre ça, et qui est vraiment fan inconditionnel des Tugs. Donc une préface assez sympa, suivie ensuite, alors c'est la présentation assez originale, ça commence par une présentation des membres, de chaque membre qu'il y a eu dans le groupe, avec des petits textes très personnels, qui mettent bien dans l'ambiance, et suivi, ce qui est plus original, c'est une partie qui est les personnes importantes dans l'histoire du groupe. Donc on retrouve par exemple Marsu, des gens du Gougnaf Mouvement, pour les personnes qui connaissent, donc tous ces gens de l'alternatif... en France, de la France des années, du début des années 80. Voilà, donc une bonne partie comme ça qui présente un peu l'univers des gens qui sont proches. Donc ça met aussi bien, ça plante bien le décor. C'est assez rare de faire ce genre de choses-là de manière aussi carrée dans une bio. Ensuite, la parole est donnée à chacun des membres de l'équipe, avec une chronologie par album, où chacun va parler de son expérience de l'album, des tournées qui ont eu lieu, etc. Donc toujours très très sympa. Et puis il y a aussi un peu d'iconographie, il y a une petite partie photo, photo du groupe, d'affiches, etc. C'est un bouquin vraiment chouette, qui donne très très envie de réécouter tout ce groupe. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est un groupe qui était un peu méconnu en France, pas reconnu à sa juste valeur. Qui a eu un petit succès auprès du label américain Sub Pop, qui les a fait finalement redécouvrir en France en passant par là-bas. On réécoutera tout à l'heure un petit morceau très court des Tugs à l'occasion d'un autre bouquin. Voilà, j'ai déjà trop parlé, donc on va cette fois-ci passer un peu de musique brésilienne qui sent chaud les plages de sable fin. C'est MC Carol avec... Bateu uma onda forte.
Caralho, caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste.
Ai, caralho, que mina maluca.
Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Tô sentindo tô sentindo rato. É tudo gostoso. Ouvi o interesseiro. Te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Ouvi o interesseiro. Te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote.
Ai, caralho, que mina maluca.
Caralho, caralho, bateu uma onda forte. vendo um macaco em cima do poste.
Ai, caralho, que mina maluca.
Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, vai bater uma onda forte. Tô sentindo rato, tô sentindo rato. É tudo gostoso. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando o meu malote. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando o meu malote.
Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 84, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et José m'a dit de parler moins vite que d'habitude parce qu'on n'a que 10 livres à chroniquer. Et donc moi aussi je vais vous parler de la qualité du papier du livre qu'il faut que je vous chronique, parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. C'est un papier un peu écru, je dirais, doux au toucher. Doit toucher, et on a envie de lire le livre. Alors, voilà, donc moi je vais vous présenter un classique. Peut-être avez-vous vu le film, c'est La Cité de Dieu. Le film est sorti en 2002, mais il est fondé sur un récit qui a été écrit donc par Paolo Linz, qui s'intitule aussi La Cité de Dieu. Et ce récit est fondé sur des études sociologiques assez poussées. C'est pas quelque chose qui sort de l'imagination de l'auteur. Et là aussi, en France, on n'a pas trop l'habitude. C'est pas non plus quelque chose qui raconte les déboires émotionnels de la bourgeoisie blanche du 5e arrondissement de Paris. Donc, c'est un livre qui est un peu dépaysant de ce point de vue-là, puisque c'est plutôt une espèce d'étude d'une favelas qui s'appelle la Cité de Dieu, qui est construite pour loger tout un tas de personnes qui vivent dans des bidonvilles, et comment en quelque sorte ces gens vont comment cette cité avec ses habitants va évoluer au cours des années, et en particulier comment le trafic de drogue va complètement bouleverser la donne. Et le début, c'est quoi? Le début, c'est des gens très très pauvres qui sont privés d'éducation parce que l'État ne paye pas pour ça, évidemment, et qui ont affaire à des policiers qui sont un peu en mode gendarmerie à Saint-Tropez. On court après les bandits, de temps en temps on les tue, c'est un peu plus chaud quand même qu'à Saint-Tropez, mais à Saint-Tropez les bandits on les met même pas en prison, ils sont en costard. Donc ça part de là, de cette espèce de voilà, ils volent des bouteilles de gaz, ils raquettent la personne qui vend du lait, de temps en temps ils vont voler les passagers du bus. Et petit à petit, la drogue va arriver. Et avec la drogue, va s'organiser le crime, en quelque sorte, dans la cité. Et tout va changer d'échelle. Y compris, d'ailleurs, aussi l'action de la police, qui, au fur et à mesure, se comporte de plus en plus comme un gang. Avec, simplement, ils ont plus d'armes, et ils ont le droit de tuer les gens, sans qu'on vienne ensuite les embêter. Et donc, vous avez cette espèce de... Et là-dedans, vous avez plusieurs personnages qui vont évoluer, c'est un peu un roman choral. Il y a une grande richesse sociologique, et c'est, comment dire, c'est pas manichéen, ils sont pas présentés forcément comme des saints, ou comme d'ailleurs des diables, hein, c'est juste des gens qui, bon, font avec ce qu'ils ont et ils ont pas grand chose. Et donc, voilà, moi c'est un bouquin qui m'avait beaucoup marqué. À l'époque, quand je l'avais lu, le film est très bon, mais, comme le livre est très très riche, ils ont dû couper. Il y a pas mal de choses qui sont retirées. Et donc, si jamais le film vous a plu, que ce thème vous intéresse, je vous dirais, allez lire le livre. Et vous verrez aussi comment on peut réfléchir à partir de là sur, par exemple, je sais pas moi, le monopole de la violence légitime par l'État. Puisque, justement, la police revendique ce monopole avec succès, en tuant les gens. Mais, d'une certaine manière, les bandits en face font plus ou moins la même chose. Les scènes très très marquantes dans le bouquin, et vous avez cette espèce de conflit sur qui va maintenir l'ordre pour assurer son pouvoir, en fait. Mais voilà, c'est un beau livre, La Cité de Dieu de Paolo Linz. Si jamais ça vous tente, lisez-le.
Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров на слова Сергея Островова. «Песня о Ленине». Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.
Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir, on continue à chroniquer des bouquins. Je me rends compte que j'ai même pas trop parlé des Tugs, quand même super groupe tout à l'heure. Hein. Ils sont humbles, avec un discours politique vraiment assez remarquable pour des groupes de l'époque. Voilà, en toute simplicité, ils sont restés les mêmes jusqu'au bout. Voilà, donc écoutez les Tugs, c'est génial. Et là, par exemple, IABF, un super album. Et voilà, enfin bref. Regardez sur le. J'ai mis les liens sur le site, vous tapez Gurdulu, Jeudi Noir, et vous aurez des liens. Là, on vient d'écouter pas du tout les Tugs, on vient d'écouter Esplendor Geométrico. Je fais beaucoup d'accent ce soir. Après, l'accent brésilien, c'est l'accent espagnol, un groupe espagnol avec un morceau Moscou está helado, donc Moscou est gelé, puisque je vais évoquer le bouquin de Catherine Arden, une autrice états-unienne, qui a écrit une trilogie, la trilogie d'une nuit d'hiver. J'ai lu que le premier tome, qui s'appelle L'ours et le rossignol. Alors, je ne peux pas vous parler de la qualité du papier, parce qu'en fait, je l'ai écouté en livre audio. Voilà. En tout cas, la qualité du MP3 était assez sympa, assez soyeux, c'est beau. Donc c'est une Américaine, mais qui a passé un petit peu de temps en Russie, qui parle russe et qui est assez fanat de tout le folklore russe, traditionnel russe. Folklore traditionnel, oui, c'est un pléonasme. Et donc l'ours et le rossignol commence comme une petite fable, des contes russes, un peu gentillets, racontés au coin du feu. Je pensais vraiment que ça allait pas du tout me plaire, mais ça bascule assez rapidement dans une sorte de dark fantasy, très très dark, très très sombre, bien violente. Alors tout ça se passe dans des milieux de la noblesse de la Russe, hein, la Russe avant même qu'on parle de Russie, une Russie médiévale très très classique et très prise dans tout le folklore, les contes, les monstres, les créatures. Il n'y a pas que la Baba Yaga, il y en a beaucoup d'autres qu'on connaît moins. Et donc ces créatures interagissent avec cette noblesse russe. Alors bon, si vous êtes allergique au Mikhaïlovitch et tout ça, il y en a un petit peu tout le long. C'est un peu pénible au bout d'un moment. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça met le focus un peu sur la puissance du patriarcat en Russie à ce moment-là. Enfin, Russie en ce moment-là, pas du tout en Russie en ce moment-là. En général, mais là, pour le coup, c'est l'exemple du patriarcat tout à fait frontal de cette époque-là, où là, les femmes ne sont vraiment que des objets et doivent suivre leur mari, leur père avant tout. Et donc, c'est une femme qui est déplacée d'un endroit à l'autre, qui est mariée de force, etc. Et qui est confrontée à des forces surnaturelles, qui seront peut-être ses alliés pour sortir de cette domination de la noblesse mâle et de l'Église, très importante en Russie. Voilà, donc ça c'est l'ours et le rossignol. Si vous aimez la dark fantasy, je vous le conseille par l'autrice qui s'appelle Catherine Arden.
Vengeur masqué, troisième. Il vole riche pour donner aux pauvres, pour voler aux pauvres, pour garder pour lui. À tout regard! Solo.
Vous venez d'écouter Ludwig von 88, le Vengeur masqué. Donc là, les Ludwig, on les reconnaît rien qu'en les écoutant, c'est fou ça. Ah, c'est la douceur sans doute du MP3. Ensuite, je voulais commencer ma deuxième chronique par une citation d'un classique, La vie aquatique de Wes Anderson, où à un moment on demande au capitaine incarné par Bill Murray quel est le but scientifique de son expédition visant à tuer un poisson rare, extrêmement rare. Et le but scientifique de cette mission, répond le capitaine, c'est la vengeance. Et donc, je vous recommande ce film qui est très très drôle si vous aimez cette espèce d'humour un peu louche. Donc, la vengeance, voilà, c'est une découverte scientifique extrêmement importante qui a été explorée bien avant Wes Anderson, dans La vie aquatique, avec Bill Murray, par... De quoi je vais vous parler? Vous vous demandez, hein? Vous savez pas, hein? Donc, ben, je vous parlais du Vengeur masqué de Dumas. Donc, c'est un livre, c'est un classique. Je fais dans le classique. C'est le Comte de Monte Cristo. Et non pas de Roland, mais en même temps, il y a un rapport avec la justice, mais d'Alexandre. Et d'Alexandre Dumas. Donc, là, je suis en mode full dad joke. Donc bon, si jamais vous l'avez pas lu, je vous dirais lisez-le parce que c'est à une époque où la série télévisuelle est devenue une espèce de must complet. En fait, Dumas il faisait des séries déjà à l'époque et c'est plein de rebondissements, c'est plein de retournements, c'est plein d'histoires assez invraisemblables, mais ça se lit quand même très très bien et j'aurais tendance à penser qu'on a rarement fait aussi bien en histoire de vengeance. Parce que, bon, si je vais spoiler un petit peu, donc bouchez vos oreilles si vous détestez les spoilers, je citerai personne, mais on a des dossiers là-dessus. Donc vous avez un personnage qui s'appelle Edmond Dantès, qui va être jeté en prison par un rival amoureux. Et Edmond Dantès est en quelque sorte destiné à pourrir jusqu'à la fin de ses jours en prison. Mais en prison, il rencontre quelqu'un qui va l'instruire. Et c'est en prison qu'il va fomenter un plan de vengeance absolument terrifiant. Et globalement, il passe des années en prison, ensuite il passe des années à mûrir son plan pour se venger, et ensuite il revient en France, à Paris, sous une autre apparence, sous une autre identité, et là il met en place un plan machiavélique, qui va mettre, ou dantesque, qui va mettre, 2000 pages à peu près à se réaliser, et qui va laisser derrière lui un champ de ruines. Donc, c'est à lire. Si jamais vous êtes fan aussi de ça, ça a été adapté en animé. Vous avez un dessin animé japonais là-dessus. Alors, ça a les limites de l'animé, mais il y a aussi une recherche graphique assez exceptionnelle dans cet animé. Donc, pareil, à mon avis, vous cherchez le Comte de Monte Cristo, version animé japonaise, et vous pouvez voir ça, c'est chouette. Voilà, donc ça, c'était pour La Vengeance.
Bah oui, c'était un très très court morceau de 20 secondes de Luke de Book avec le morceau Bise Cornu. Biscornu. Jeudi noir, je ne vais pas représenter parce que là, la pause était trop courte. Donc, pour vous parler d'un bouquin de Megan Lindholm. Megan Lindholm, on en avait déjà parlé plusieurs fois ici même. Alors, sous le pseudo de Megan Lindholm, cette autrice états-unienne, je vous avais présenté un bouquin de SF, Alien Hearth. Je crois que Michel, sous le nom plus connu de Robin Hobb, vous avez présenté L'Assassin Royal, oui. Il y a quelque temps. Là, c'est un bouquin donc sous le pseudo de Megan Lindholm. Donc, c'est une autrice méga connue, best-seller et tout ça, et qui fait des bouquins assez épatants, vraiment d'excellente qualité dans des styles très différents. Là, c'est encore un style différent. C'est un roman très très intimiste qui s'appelle Le Dieu dans l'ombre. Alors, Le Dieu dans l'ombre, par rapport au titre Bise Cornu de Luke de Book, parce que ce dieu-là, c'est une sorte de faune, c'est un satyre. Pan, le satyre, Pan. Bise, cornu, book, look 2, voilà. Tout ça, c'est ça. Donc, il y a du boulot derrière. Hein. Je disais que c'est un roman intimiste. Alors, ça commence, c'est une petite fille, mais une petite fille qui ne se sent pas forcément très fille. Elle ne se sent pas très poupée, rose, paillette et tout ça. Elle, ce qu'elle kiffe, c'est jouer dans les bois, chasser le cerf, lui retirer les tripes et découper les quartiers de viande. Voilà, si elle n'est pas recouverte de boue, de sang et tout ça, elle s'éclate pas trop. Donc, elle est pas très, très bien considérée dans sa famille. C'est un peu le vilain petit canard. Ça fait un petit peu Cendrillon d'ailleurs, hein, avec des gens dans sa famille qui la prennent pour la souillon de service, même si voilà, elle n'est pas forcément maltraitée. Mais en tout cas, dans la forêt, elle aime aussi s'y réfugier parce qu'elle a un ami qui est un faune, hein, un satyre. Donc un homme mi-homme, mi-bête, mi-chèvre, voilà, mi-bouc, voilà, qui joue de la flûte de Pan et tout ça, quoi, hein, donc elle le surnomme Pan. Des années passent et là on la retrouve adulte. Elle est mariée, elle a un enfant, elle s'est mariée avec un mec super beau, un cow-boy, et elle se retrouve dans sa belle famille. Et là, c'est le cœur du roman, où c'est la place de cette femme, écrasée par sa belle famille, par son mari, tout ça avec toujours plein de bienveillance, mais sa belle famille est d'une normalité affligeante et refuse toutes ces petites excentricités. Il y a le poids de l'hétéropatriarcat qui est là, mais flagrant, énorme, un peu comme dans l'histoire de l'ours et le rossignol dont je vous parlais avant, mais sous un autre angle. Alors, ça parle donc de cette rébellion de cette femme-là, du fait qu'elle retrouve également ce pan, cet ami faune. Après, ça a ses limites, parce que le roman, moi j'ai été un peu déçu, c'est vraiment limité par l'hétéronormalité, c'est vraiment dans ce cadre-là strict. Elle ne sort pas du tout de là, donc c'est certes une libération, mais qui est pas non plus, qui reste dans un cadre très 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 normé. En tout cas, c'est une très belle écriture. Megan Lindholm, j'oublie toujours un bout du nom. Le Dieu dans l'ombre. Et puis ben, on va vous passer un morceau très très court des Tugs, parce que c'est vraiment un super groupe, mais qui dure que quelques secondes.
Vous venez d'entendre donc le morceau des Tugs, Omar Feels Fear in Weimar, donc Omar a peur à Weimar. Donc vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est jeudi noir qui se poursuit pour un énième, on n'ose plus trop dire marathon du livre. Et José me dit de parler moins vite, parce que j'ai l'habitude en fait de présenter des cours du tiercé. Ça je vous l'avais caché, c'est ma vie secrète. Habituellement c'est des chevaux qui courent vers le génie paraphraser Mouzil dans L'homme sans qualité. Et donc, là, je voulais vous présenter autre chose qu'un cheval, mais ça parle aussi en allemand, pas comme les chevaux, mais comme Mouzil. Et donc, c'est un livre de Eric Kastner qui a été retraduit, qui s'intitule Vers l'abîme. Alors, si je vous dis pas de bêtises, Eric Kastner, donc, c'est un auteur allemand de la première moitié du XXe siècle. Il a été surtout connu en Allemagne pour avoir, et pas qu'en Allemagne, pour avoir vendu des livres pour enfants. Mais il n'a pas fait que ça. Et ce serait déjà bien d'avoir fait ça, mais il n'a pas fait que ça. Et il a publié un livre qui a été publié, enfin comment dire, qui a été traduit en français une première fois sous le titre de Fabian, ou le moraliste, du nom du personnage principal. Et qui ensuite a été retraduit beaucoup plus tard, qui s'intitule Vers l'abîme. Et c'est un livre qui présente un pan de l'histoire allemande qu'on a parfois un peu oublié. C'est qu'est-ce qui se passait en quelque sorte dans les années qui ont précédé l'avènement du nazisme en Allemagne. Quelle était en quelque sorte l'ambiance à Berlin par exemple. Alors ça on vous en a déjà parlé dans d'autres bouquins qui présentaient une autre vision des choses. En particulier dans Secret et violence de Georges Glasner, mais aussi bon, ça c'est des trucs qu'on a pas mal abordé à travers par exemple Karl Kraus. Et donc dans le bouquin de Kastner, Vers l'abîme, ça présente la vie d'un petit employé, comment dire, qui avait des aspirations intellectuelles, mais qui se retrouve à faire un métier sans grand intérêt et mais où peut se permettre de comment dire de vanner son chef à peu près en permanence parce que son chef a besoin de lui. Et qu'est-ce que fait ce petit employé? Le soir, il sort, il se bourre la gueule et il rencontre un petit peu toute la faune berlinoise avec des gens qui, en quelque sorte, justement, vont vers l'abîme. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est essayer de coucher les uns avec les autres, de picoler un maximum et d'oublier ce qui prélude. Et alors le roman avait été publié une première fois, mais lourdement censuré. Et ensuite, Kastner a été victime de ses œuvres, en tout cas, ont été victimes d'autodafé en 33, puisque c'était des livres, il était brûlé avec Heinrich Mann, avec quelques autres. Et donc, lui, il a pris cher, disons. Mais c'est un livre, c'est un beau livre, fort, et que moi je vous recommande. Donc, Erich Kastner, Vers l'abîme.
Send my son to Vietnam. You give me second class houses, second class schools. Do you think that all colored people are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues, yes I am. When I try to find a job, earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round.
folks like me were black, yellow, beige, and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues, yes I am.
Bonsoir encore, Radio Libertaire 89.4, c'est encore Jeudi Noir qui se poursuit pour un combien 7e bouquin à chroniquer. On en fera 10 au total. On vient d'écouter Nina Simone avec The Backlash Blues, une excellente version live, pour vous parler d'une autrice, Jasmine Ward, j'avais oublié son nom. Jasmine Ward, une autrice états-unienne, afro-descendante. Le bouquin que j'ai lu, c'est Le Chant des Revenants. Alors, Le Chant des Revenants, j'ai mis un petit peu de temps à le lire. Je l'avais de côté depuis un moment parce que c'est pas joyeux. J'avais envie de choses un peu plus rigolotes. Mais bon, je m'y suis lancé et je ne le regrette pas. Alors, on suit les aventures du petit Jojo, donc un enfant qui est chez ses grands-parents, donc un petit enfant noir aux États-Unis, dans un état du Sud, je crois que c'est le Mississippi, avec ses grands-parents noirs. Sa mère, qui l'a eu très très jeune et qui a du mal à s'occuper de lui, qui est encore une ado, quoi. Et puis qui aime bien quand même un peu la drogue, tout ça, s'éclater. Donc elle a un peu le gosse dans ses pattes. Et puis un jour il y a le père de cet enfant qui est un père qui est blanc, enfin un père blanc qui est son père et qui est blanc et qui sort de prison, donc là c'est un mini road trip où la mère, l'enfant et une amie vont aller jusqu'à la prison pour accueillir la sortie du père. Et tout ça, c'est en parallèle avec des histoires racontées par le grand-père de Jojo, qui lui a connu ce même état dans les années 50. Parce que moi, tout le début, on a vraiment l'impression que ça se passe dans l'Amérique d'il y a très très longtemps, alors que non, c'est contemporain. Et le grand-père lui raconte son Amérique des années 50, avec en particulier la ferme pénitentiaire qui était dans le coin. Voilà, et donc il y a des fantômes du passé qui reviennent hanter le petit Jojo. Alors, des fantômes du passé au sens propre comme au sens figuré. Donc il y a un petit côté fantastique qui est là. C'est un roman hyper touchant, très très bien écrit. En tout cas, la traduction m'a paru fluide et adéquate. J'en dis pas plus, de peur de spoiler. Ça s'appelle Le Chant des Revenants par Jasmine Ward.
Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one
poppy spring. Long as he wears a plain gold ring. Oh, 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 oh,
après ce magnifique morceau donc de Nina Simone, Plain Gold Ring, donc un anneau de, une bague en or pur, vous avez immédiatement deviné de quoi j'allais parler. Mais je vais brouiller un petit peu les pistes. Est-ce que vous avez déjà lu des livres dans lesquels il y a des chansons? Très franchement, pendant des années, j'ai détesté ces livres.
C'est chiant.
Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais comment on chante ça? C'est-à-dire, pourquoi mettre une chanson dans un livre s'il n'y a pas de la musique avec? Et des chansons que je détestais tout particulièrement dans un livre que j'aimais bien par ailleurs, c'était les chansons qui étaient dans Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Donc Tolkien, on dira pour aller plus simplement. C'est anglo-saxon avec leur triple ou quadruple prénom, on n'en peut plus. Hein. N'est-ce pas, Adalbert Jean-Rémy? qui est avec nous ce soir dans le studio, Adalbert Jean-Rémy, un très bon pote. Mais c'est pas un anglo-saxon, rassurez-vous. Donc lui, il a le droit. Hein. Entre nous, on l'appelle ADJ. Ou ADR, je sais plus. Enfin bref, un truc quoi. Je sais plus. Et mon bouquin, donc, c'était Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est possible. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois parce que je le trouve beau et le papier est soyeux.
C'est sorti quand?
Alors, c'est sorti il y a un certain temps déjà. On est pile dans l'actualité. Mais, plus important. Et pourquoi je vous ai parlé des chansons? Vous allez vous dire, mais de quoi il parle? Il va dans tous les sens, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Alors, je vous dirais d'abord, c'est normal, je le fais exprès. Ensuite, le truc, c'est que, pourquoi c'est un petit peu d'actualité, c'est qu'il y a très très peu de temps, c'est-à-dire moins de 10 ans, une nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux est sortie. Et en fait, c'est tout un projet, ils sont en train de tout retraduire. Et ce qu'il faut dire, pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, ou celles d'entre vous qui l'ignoreraient, c'est que les traductions du Seigneur des Anneaux étaient particulièrement lourdingues et assez moches, et en particulier les chansons étaient imbuvables. Et en lisant la nouvelle traduction, on s'aperçoit que tout d'un coup, ça devient beaucoup plus fluide, ça se rapproche nettement plus de la version anglaise qui... Alors, si vous connaissez un petit peu l'anglais, y a des mots un peu précieux, il y a des mots un petit peu anciens, mais c'était pas aussi tarabiscoté qu'en français. Et là, la version française, elle est carrément agréable à lire. Et même si vous lisez l'anglais, je vous dirais, lisez la version française, elle est cool. Et ils ont même, alors là, ils ont, récemment, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça fait partie de mes projets, ils ont retraduit aussi le Silmarillion, qui n'est pas une œuvre de Tolkien lui-même, qui est une œuvre, comment dire, construite à partir de ses manuscrits posthumes et construite par son fils, qui est mort très récemment aussi. Et donc ça a été retraduit, il paraît que c'est pareil, c'est de nouveau, c'est fluide, c'est lisible, et on n'est pas perdu, comment dire, dans un faux style précieux. Vous savez, comme les gens qui ignorent tout du Moyen-Âge, dès qu'ils veulent faire moyenâgeux, ils vont dire Palzame bleu ou des choses comme ça, et vous comprenez plus rien. Le Seigneur des Anneaux s'est un petit peu traduit à cette mode-là, et la nouvelle traduction vaut le coup. Donc je vous dirais, si vous avez déjà lu le Seigneur des Anneaux dans l'ancienne traduction, que vous avez aimé, mais que vous dites c'est lourdingue, jetez un œil à la nouvelle traduction, je pense qu'elle vaut le coup, elle vaut le coup d'œil.
Eh ben, ventre saint gris. Je comprenais pas pourquoi Michel était venu à l'émission en chantant et en trottinant, je comprends mieux. Voilà. Bon, on va écouter un machin justement médiéval. C'est vrai que ça donne envie de chanter cette nouvelle traduction de Tolkien. Donc là, on vient d'écouter Prélude médiévale, ça reste dans le lien tout ça, par Catherine Ribeiro et Alp. Un album, je ne sais plus, lui doit dater du début des années 70, 73, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Peut-être avant. Bref, tout ça pour évoquer un bouquin d'une autrice française cette fois-ci, ce n'est pas une états-unienne, même si elle vit au Québec, me semble-t-il. Donc c'est Elisabeth von Harburg. Elisabeth von Harburg, alors c'est comme tout à l'heure avec le bouquin sur le folklore russe, je n'ai lu que le premier tome de la trilogie qui s'appelle « Les pierres et les roses ». Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et le premier tome s'appelle « La voix des pierres ». J'ai lu le premier tome, je ne sais pas non plus pourquoi ça s'appelle comme ça, mais il y a sûrement une raison, qui sera dévoilée dans les prochains tomes. Alors, Elisabeth von Harburg, c'est une autrice qui est née, je pense, fin des années 40. Elle doit avoir dans les 75 ans à peu près à l'heure actuelle, par là. Et elle est entrée dans la SF vers les années 70. Et depuis, elle a été assez prolifique en SF et en fantasy. Là, on a plutôt un bouquin de... Alors, je ne sais pas si ça s'appelle une uchronie, d'ailleurs, j'aurais dû vérifier. Ce n'est pas vraiment une uchronie, peut-être une parachronie, puisque là, c'est un bouquin pseudo-historique. Ça se passe dans une Europe du XIIe siècle, un petit peu différente de l'arc du multivers que nous connaissons, nous, puisque l'Europe est séparée entre les chrétiens, pas les chrétiens, sont bien les chrétiens, et les géménites, qui sont une autre branche du christianisme, mais qui pensent que les géménites, donc du mot jumeau, gémélité, puisqu'ils pensent que Jésus a une sœur jumelle et que cette sœur jumelle était magicienne. Voilà, qu'elle a soigné tout ça avec la magie. Donc la France est séparée en plusieurs royaumes, hein, la France, ce qui plus tard deviendra la France éternelle. Donc elle est séparée en plusieurs royaumes. Qui sont pas vraiment potes. Hein. Il y a les chrétiens d'un côté qui sont un peu les chrétiens, les cathos, quoi. Hein. Là, ça représente plutôt les cathos qui sont anti sorcellerie, la magie c'est mal, tout ça. Vaut mieux mourir et souffrir que d'être soigné par une formule magique. Et puis, dans d'autres régions de l'Hexagone, on a les géménites. Donc, qui eux pratiquent la magie, sont beaucoup plus tolérants, etc. Au milieu de ça, on a les juifs qui sont là aussi, qui sont présents dans représentés par plusieurs personnages, qui sont présents dans ce roman, Les Pierres et les Roses. Et eux sont aussi diversement tolérés selon les époques, selon les régions, selon les différents seigneurs. Voilà, mais ça reste une tolérance. Donc, c'est très ancré dans la véritable histoire. Mais avec des petites différences avec cette apparition du fantastique et de la magie là-dedans. Alors ça commence par un roi qui se meurt et qui envoie son jeune fils chercher son grand-fils qui est l'héritier légitime. Et là, c'est une histoire entre les deux frangins, avec des trahisons, du mensonge, de la vengeance, une mandantesque, tout ça. Donc des choses un peu chiantes en soi, hein, l'histoire de roi, de prince, tout ça, c'est pas hyper passionnant. Mais alors ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est vu surtout d'un point de vue de personnage beaucoup plus humble. On a un serviteur en particulier qui est un troubadour et qui va un peu monter en grade et suivre ces personnages-là, et qui est assez intrigant, ce personnage-là. On suit également une jeune femme juive qui est soignante et qui est tolérée parce qu'elle arrive à soigner quand même les familles royales, etc. Mais on sent qu'elle a toujours, sa famille a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà. Donc, un roman un peu long. Hein, il fait dans les 700 pages, je crois, pour un premier tome. Écrit de manière très classique. Mais c'est pas forcément péjoratif. Je vais lire les deux prochains tomes. Donc, c'était Les Pierres et les Roses d'Elisabeth von Harburg. Premier tome, La Voix des Pierres. Oui, pardon, on va passer la musique après, en fait. Donc là, c'est Michel qui est pris au dépourvu.
Voilà, il m'a pris en traître. Un jour, je me vengerai. Ah, dans 20 ans. Ça, c'était pour parler d'un petit bouquin facile, un petit truc là, un peu léger. Comme vous le savez, on avait souvent invité Jacques Bourresse dans l'émission. On l'a dû l'inviter 3 ou 4 fois, je ne sais plus, 3 fois. Dans ces eaux-là, après sa mort, je me suis un petit peu replongé dans son œuvre. Et là, récemment, je relisais la Demande philosophique, qui a été éditée chez L'Éclat. C'est un bouquin qui est sorti en 94 ou 95, j'ai oublié la date exacte, et qui est en fait la version longue de son discours d'investiture au, je sais pas si on dit ça comme ça non plus, peu importe, enfin bon, au Collège de France. Et c'était l'occasion pour Jacques Bouvresse de définir la façon dont lui concevait la philosophie. Et donc il va, au cours de son livre, aborder différentes conceptions qu'on trouve de la philosophie, de son histoire, et en particulier au XXe siècle. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il fait une espèce de panorama de la philosophie telle qu'elle est vue, par exemple, en France, par des gens comme Deleuze, mais pas seulement, aussi comme des gens aussi qui étaient plus proches de Bouvresse que intellectuellement, enfin philosophiquement et même personnellement, comme Villemin, comme Gilles Gaston Granger et tout. et mais aussi une confrontation avec la tradition analytique. Plutôt dite anglo-saxonne, même si là aussi on pourrait discuter. Et donc c'est un livre comme les écrivains un peu bouvrés, c'est-à-dire c'est très sinueux, c'est compliqué de le résumer, c'est serait compliqué d'arriver à des positions vraiment tranchées à la fin, mais c'est une belle méditation, on pourrait dire, sur qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que les gens en attendent et qu'est-ce qu'on peut vraiment en espérer. Sachant que les réponses qu'apporte Bouvresse ne sont pas tout à fait héroïques. C'est-à-dire qu'il était plutôt sceptique quant au pouvoir supposé ou supposé réel de la philosophie, quant à ses capacités de transformer notre vie et plus encore le monde. Donc c'est un assez beau livre, un peu exigeant. Mais pas non plus trop technique, je pense. Voilà, si vous demandez qu'est-ce que la philosophie, ça pourrait être une façon de rentrer là-dedans, même si j'avoue qu'il faut peut-être un peu de fond quand même, c'est pas forcément un livre d'introduction, disons. Mais c'est un beau livre, voilà. Donc maintenant on va vous passer quelque chose dont il n'est absolument pas question dans ce livre, mais José est un troll. Et donc c'est un morceau de No Means No, le meilleur groupe du monde, qui s'intitule « Sex is Philosophy ».
Another dark hole. the back. Security cameras cut this violent act. She come willingly to him. She only wanted to be his friend. Well, he ripped away her shirt and called her a whore. Said that she was dead. She was pleading for her life. She was screaming, why, why? Well, he grabbed her by the hair. He pushed her down and he kicked her there. She couldn't believe. Philosophy is sex, porno, video, X. Sex is politics, politics is sex, porno, video, X. Porno, video, X.
Bon, bah, comme on a un petit peu de temps, on va vous passer quand même pour finir cette année un dernier petit morceau des Tugs, hein, I Love You So, quand même, qui est un tube pour que vous rendiez compte à quel point c'est génial. Alors, on vous dit, si jamais il n'y a pas de confinement, de couvre-feu, d'épidémie de virus zombie, de trucs comme ça, bref, si ça se passe comme on veut, on se retrouve le 13 janvier, normalement. Voilà, bisous.
We'll be right back.